Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
En vacances? Levez la main ceux qui sont en vacances. Levez la main ceux qui travaillent. Il faut que ça gagne sa croûte. Alors moi, je suis en train de travailler, là, fait que je ne suis pas en vacances. Non, c'est une blague. Bonnes vacances à ceux qui peuvent se permettre des vacances. Bon temps de repos. Il y a un enfant qui m'a dit deux choses en rentrant. Elle était contente aujourd'hui parce qu'elle dit « Mes cadeaux sont en dessous du sapin ». Et deux, papa, il va être en vacances pour deux semaines. Fait que tu voyais que l'enfant était content de voir que son papa serait présent avec elle. Donc, c'est un temps d'arrêt. Le temps des fêtes, c'est aussi un temps d'opportunité. Puis, ce que j'essaie de tenir en éveil à l'Église Grâce et Vérité à chaque année, entre Noël et Jour de l'An, des fois une semaine avant Noël aussi, c'est qu'on est sur la terre en mission et qu'on doit être toujours prêt. Parce que Noël, c'est aussi un temps d'opportunité. C'est comme le temps quasiment dans l'année où on revoit pas mal toute la famille, qu'on s'est perdu de vue durant l'année. Et donc, c'est un temps d'opportunité. C'est un temps pour rester quand même éveillé sur notre foi et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, c'est qu'il y a des gens dans nos familles et nos amis qui vont se tourner vers Jésus ou qui vont entendre parler de Jésus dans ce temps des fêtes-là. Pour moi, ce temps des fêtes-là, puis pour Stéphanie, c'est un temps d'arrêt des examens. On est en train de recevoir nos notes d'examen, là, puis on regarde si on a bien fait ça. C'est un temps où les examens, c'est un temps où... Qui aime les examens? Levez la main ceux qui aiment les examens. Levez la main ceux qui n'aiment pas les examens. Ben, il avait levé la main, il aime ça les examens. Pourquoi, Ben, t'aimes les examens? Oui, ça vient évaluer ce que tu as appris. Puis sérieusement, alors que je me préparais pour mes examens de fin de session, je réalisais qu'à moins qu'il y ait ces examens-là, je n'écouterais pas de la même manière. Puis aussi, je revise tout le matériel à quelques reprises durant la session. Je suis obligé de le réétudier. Et c'est quand même ça qui fait qu'on finit par absorber. On ne peut pas juste dire « Ah, oh, j'ai pas de mémoire, moi ». Non, mais à force de passer par les évaluations, on finit par... être obligé comme de se casser la tête, puis d'arriver à l'examen, puis d'être prêt, tu sais. Et donc, il y a un verset qui est dans 1 Pierre 3, verset 15, qui dit, en anglais, ça dit, « Dans votre cœur, révérez Christ le Seigneur. » Dans le français, c'est « élever, sanctifier Christ votre Seigneur. » C'est ça, Philippe? OK. « Mais dans vos cœurs, sanctifiez Christ le Seigneur. » Soyez toujours prêts à donner une réponse à quiconque vous demande quelle est la raison de l'espérance qui est dans vos cœurs. Faites-le avec gentillesse et avec respect. Quand est-ce, Ben, que c'est le fun de faire un examen, puis quand est-ce c'est pénible de faire un examen? Quand est-ce ça devient pénible? Quand tu n'as pas appris ton matériel, quand tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait tes devoirs. C'est le fun quand tu fais un examen, quand tu sais, il y a un dicton qui dit « practice makes perfect ». La pratique, c'est ce qui rend parfait. Moi, j'ai eu une matière que j'ai passée à 50%, mais pas toute la session, mais un examen. Et je vous dis, c'était pénible, j'étais anxieux, je ne me suis pas senti bien du tout. L'examen avait deux questions, une heure par question. Puis les deux questions relevaient d'une petite fonction que je n'ai pas pratiquée, presque pas durant la session. Puis c'était comme une petite matière dans tout ce qu'on a appris. C'était une petite affaire comme ça, mais ça reposait sur deux questions. Puis j'avais travaillé très, très fort, très, très fort sur une affaire, mais ça ne valait rien dans la session. Puis je suis arrivé à l'examen, donc sans pratique, sans m'être pratiqué, sans m'être exercé. Je vais dire des choses dans mes messages et je vais les répéter. De message en message, d'année en année, de mois en mois, parce que c'est quand même la répétition qui est la mère de l'apprentissage. Et donc, c'est des choses, peut-être, des fois, que je vais dire, que vous dites, j'ai déjà entendu ça, réécoutez-les, comme si vous seriez en train de réviser pour un examen. Et donc, j'ai eu 50% à cet examen-là parce que je ne me suis pas pratiqué. Je n'ai pas revenu sur le matériel. Et donc, ça m'a coûté cher, cet examen-là, mais j'ai quand même passé ma session. Fait que là, ça, j'étais bien content pour ça. Alors, vous dites, crème, Jean-Sébastien, il me semble, c'est Noël, tu nous parles d'examen. Bien, ça peut être agréable quand les gens vont nous poser des questions sur notre foi. Ça peut être agréable de raconter, de dire, « Hey, sais-tu quoi, mon beau-frère m'a dit, Jésus, c'est juste une histoire, ça. Il n'y a même pas de preuve qui a existé. » Et puis là, j'ai répondu ça, puis il n'y avait plus rien à répondre. T'sais, j'ai senti que... Et là, il y a une joie. Donc, on a un examen, qu'on le veuille ou pas, on est placé devant les hommes, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et si le beau-frère ou la belle-sœur ou mon oncle dit, « Prouve-moi donc que Jésus a existé », bien, on ne répondra pas juste, « Ah, oh, ben moi, j'y crois parce que c'est écrit dans la Bible. » Mais on va avoir, comme faites nos devoirs, on va avoir travaillé. J'ai la manette ici. Fait qu'on va faire apparaître les acétates. Je vais faire juste une petite récapitulation des trois dernières semaines. En passant à l'audiovisuel, le message de la semaine passée, même si c'était un message d'évangélisation, faisait partie de la série. C'était le deuxième de trois messages. Okay? On a eu depuis trois messages avec celui d'aujourd'hui. L'argument pour l'historicité de Jésus. Dans les deux derniers messages, dans le dimanche, le 11 décembre, on a vu qu'il y avait des gens qui n'en avaient rien à faire, qui étaient des païens romains, qui décriaient les chrétiens comme une secte, qui croyaient à une supercherie pernicieuse, qui était la résurrection de Jésus, qui avait été réprimé pour un temps sous Ponce Pilate, réprimé veut dire étouffé, pour un temps sous Ponce Pilate, mais qui avait fait resurface, qui avait resurfacé à Rome. On a vu quelques citations d'historiens romains. Alors, c'est intéressant, des gens qui n'en ont rien à faire que Jésus existait ou qu'il n'a pas existé, eux autres, ils ont écrit ça dans les manuels d'histoire là, de Romains, si on peut dire, dans les livres d'histoire. On a vu aussi dans ce message-là, prochain clic, que les ennemis des Juifs voulaient dissuader les gens de croire en disant que Jésus était un sorcier et il ne niait pas ses miracles. Pourquoi il ne niait pas ses miracles? Et parce qu'il était là. Ils les ont vus, ces miracles. Ils ne peuvent pas les démentir. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai qu'il a ressuscité des morts, qu'il a guéri des malades, qu'il a multiplié du pain. Il l'a fait à la vue de tout le monde. Donc, la seule affaire que ceux qui étaient l'ennemi de Jésus pouvaient faire pour empêcher les gens de croire, c'était pas de nier ses miracles, mais de les attribuer à une autre puissance, qui était la puissance d'un sorcier. Ah, c'est intéressant. Parce qu'en parlant contre Christ, ils ont rendu un fier service à l'histoire et on a des écrits aujourd'hui qui nous montrent que les ennemis de Jésus-Christ nous prouvent qu'il a existé puis que ses miracles sont véridiques aussi. Dimanche, la semaine passée, on a vu que la venue de Jésus et ses enseignements ont marqué la société. Il y a eu des changements radicaux au niveau de l'esclavage, la position des femmes dans la société, qui étaient reconnues comme la possession de leur mari. On a vu que les enfants aussi étaient à possession de leurs parents. On pouvait même les tuer, si on voulait, ou les vendre comme esclaves. On a vu que les enfants commençaient à être des êtres humains à partir de la venue de Jésus. C'est quelque chose. Ça veut dire que si Jésus serait juste un personnage d'une histoire qu'on raconte, là, ces choses-là n'auraient pas... C'est pas un livre d'histoire qui aurait changé de quoi. C'est le fait que Jésus est venu, qu'il a enseigné puis qu'il a marqué son temps. Et il y a un avant Jésus-Christ puis il y a un après Jésus-Christ. Et donc, la semaine passée, on a vu aussi que l'éducation, c'est ceux que Jésus avait touché profondément. On a vu que 122 sur 123 universités en Amérique du Nord étaient créées par des chrétiens. Et l'alphabétisation des gens en Amérique du Nord était causée par des gens qui ont été touchés par l'Évangile et voulaient que les autres puissent aussi la lire. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste un... Et d'ailleurs, c'était un peu l'argument de mon message de la semaine passée, c'est que les grands changements de l'histoire montrent que Jésus n'est pas le personnage dans une histoire, mais une personne de l'histoire. Ça, c'était les deux derniers messages. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans les premiers siècles, après les apôtres. les apôtres, on a vu dans mon message du 11 décembre qu'il y avait des credos. Hein? Juste le fait que les gens disent « il était paru à Pierre ». Après ça, les disciples d'Emmaüs, ils ont dit « il était paru à Pierre et aux apôtres ». C'est des credos que les chrétiens répétaient entre eux pour se transmettre les faits historiques qui s'étaient vraiment passés. Là, on va aller un petit peu plus après les apôtres, ça veut dire à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Et on va regarder les écrits de ceux qui ont marché dans les enseignements des apôtres. Donc, il y a eu, mettons, Jean, Paul, Pierre, tout ça. Eux autres-mêmes, ils ont formé des pasteurs, des anciens, des gens qui étaient des docteurs, des défenseurs de la foi, des anciens dans les églises. Et on va regarder quelques-uns de ces écrits. Regardons ensemble Clément de Rome. Je vais juste se mettre mon petit timer ici pour être sûr de vous relâcher pour l'heure du souper. Quand même, c'est la veille de Noël. Clément de Rome. Je vais faire plusieurs lectures comme ça avec vous. Ça va être intéressant. Les apôtres reçurent pour nous l'Évangile de la part du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ fut envoyé par Dieu, ainsi Christ vient de Dieu et les apôtres sont de Christ. Ils vinrent donc tous de la volonté de Dieu selon l'ordre marqué. Ayant donc reçu une mission et ayant reçu une pleine assurance par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et confirmé par la parole de Dieu avec pleine assurance du Saint-Esprit, ils annoncèrent la bonne nouvelle que le royaume de Dieu viendrait. Donc, certains disent que le Nouveau Testament, c'est des écrits qui se sont comme romancés, qu'au début, il y avait pas, Jésus n'était pas vraiment ressuscité. C'est un conte qui s'est, avec les siècles, là Jésus, là, ça s'est ajouté, là, l'histoire que Jésus était ressuscité, tout ça. Mais non, déjà au premier siècle, fin du premier siècle, on voit des gens qui citent la résurrection de Jésus-Christ. Hein? C'est intéressant. Donc, c'est un Jésus historique qui a vraiment existé en Palestine. En passant, le but aujourd'hui, ce n'est pas de dire que Jésus était Dieu, mais que Jésus était vraiment un personnage de l'histoire et que s'il y a plein d'évidence, même parmi les chrétiens. Ignace, qui est aussi au 1er siècle, lui était évêque d'Antioche, en Syrie, et il a écrit 7 lettres alors qu'il s'en allait se faire... Il allait passer au bûcher ou se faire manger par les bêtes sauvages. Là. Je ne sais pas c'était quoi, lui, son exécution. Mais il s'en allait à son exécution. Il a écrit 7 lettres, dont une à Polycarpe, que je vous parlerai un petit peu plus tard. Et il a écrit quelques citations intéressantes. Et regardez comment ces gars-là s'en vont sur le bûcher, ils s'en vont pour mourir. Et ils écrivent alors qu'ils s'en vont dans ce scénario-là. C'est quoi tu veux écrire? C'est quoi tu veux que les gens sachent alors que toi, tu vas mourir? C'est important. Il dit « Jésus-Christ, qui était de la race de David et le fils de Marie, qui naquit réellement déjà au premier siècle, ça faisait 70 ans que Jésus avait été crucifié, il fallait déjà être obligé de, on était obligé de dire, il est vraiment né, il a vraiment vécu, il a vraiment mangé et il a bu. C'est une personne comme vous et moi, c'est pas un conte historique, fait que c'est pas depuis 2016 que les gens disent que Jésus c'est un conte. Vous rappelez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit quand que Jésus s'est fait crucifier, qu'il a été mis au tombeau puis que son corps est disparu? C'est quoi la théorie qu'on a voulu sortir? C'était quoi? Qu'ils ont volé le corps puis que les apôtres inventent une histoire concernant la résurrection. Donc déjà, la personne de notre Seigneur Jésus, l'attaque qui était contre lui, c'est qu'il n'a pas vraiment été ressuscité, que ses disciples inventent une histoire. Et là, déjà au premier siècle, Ignace qui s'en va au bûcher, qui s'en va mourir à Rome, qui dit hey, il est vraiment né, il y a vraiment une mère qui s'appelle Marie, il a vraiment mangé, il a vraiment bu, il a été persécuté sous Ponce Pilate, il a vraiment été crucifié, il a mouru sous les yeux de ceux qui sont au ciel, sur la terre, sous la terre. De plus, il fut vraiment ressuscité d'entre les morts, son père l'ayant relevé de la même manière, il ressuscitera ceux qui croient en lui. Donc, écrit ça juste avant d'aller donner sa vie. Ensuite, soyez pleinement convaincus à propos de la naissance, de la passion, de la résurrection qui eut lieu au temps du gouvernorat de Ponce Pilate, car ces choses furent véritables et certainement accomplies par Jésus-Christ, notre espérance. Donc, ces gens-là sont prêts à... Ils vont mourir là, à cause de ce qu'ils croient. Et ce qu'il écrit, eh bien, il veut que ça passe de génération en génération. Jésus n'est pas le personnage d'une histoire, Jésus est une personne de l'histoire. Polycarpe, c'est un des martyrs chrétiens, un des premiers martyrs chrétiens dont on a un bon récit de ce qui s'est passé. F.F. Bruce, que j'ai cité dans mon dernier message aussi, il dit que Polycarpe est une personnalité vénérable. Il est le dernier lien avec ceux qui ont vu Christ dans la chair, car il s'est assis au pied de Jean, le disciple bien-aimé. Donc, Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean. On ne connaît pas comment lui s'est converti, mais à la fin du 1er siècle, il était l'évêque de l'église de Smyrne. Il y avait un tel impact en Asie contre le paganisme. Le paganisme, c'est adorer d'autres dieux. Qu'on l'appelait, les gens disaient, prochain clic, il est l'athée, l'enseignant de l'Asie, le destructeur de nos dieux. Donc, Polycarpe, il venait shaker la cabane en Asie, puis les gens disaient, il détruit nos dieux. Il détruit nos dieux et c'est un athée. Donc, les croyants, c'était des athées dans ce temps-là, par rapport au paganisme. Hein? C'est drôle quand même. Hein? Donc, pour les païens, Polycarpe glorifiait un homme mort. Un homme qui était mort, donc pas un homme ressuscité, un dieu-homme ressuscité, mais un homme mort. Les prédications qu'il faisait sur les miracles et les enseignements de Jésus, qu'il avait reçus lui-même par Jean, faisaient des réactions fortes chez les païens. Et donc, lui a écrit une lettre qui s'adressait aux Philippiens et établissait que Jésus était vraiment Dieu. Et l'Église de Smyrne, en l'an 156, a raconté une persécution que les fonctionnaires romains avaient décidé de commencer à mettre à mort des chrétiens. Et là, l'Église de Smyrne, quand ils ont su ça, ils ont pris Polycarpe et ils l'ont amené dans une grange qui était loin du village. Et il y a un serviteur de l'Église qui a été torturé. Et puis, sous l'effet de la torture, il a fini par avouer où ce que Polycarpe était caché. Et on est allé chercher Polycarpe, et lui, il avait 86 ans à ce moment-là. Donc, on est en 156, donc reculé, là, il est quand même proche de Christ. Et c'est pas qu'il voulait le tuer, il voulait simplement qu'il renie sa foi. Alors, après l'avoir arrêté, on lui a conjuré de renier sa foi, et on lui a dit, « Voyons, quel mal y a-t-il à dire César est Seigneur et à offrir de l'encens et ainsi être sauvé? » Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire César est Seigneur? Offre de l'encens au nom de César et la vie sauve. Et le fonctionnaire là, qui est en charge de l'exécution ou du procès, il a dit « Ayez du respect pour votre grand âge, implora le proconsul, et jurez par la divinité de César. » « Repentez-vous et dites « Abba les athées » qui étaient les chrétiens et prêtez serment et je vous libérerai. » Alors, Eusèbe, qui est un historien de l'Église, a consigné ces mots-là par écrit. Polycarpe, et là je vais vous le lire comme c'était cité par Eusèbe l'historien. « Polycarpe, le visage impassible, regarda la foule présente dans le stade, agita ses mains vers eux, soupira, leva les yeux vers le ciel et s'écria « Abba les impies ». Il n'a pas dit « Abba les athées », il a dit « Abba les impies ». Le gouverneur insista de nouveau, « Jurez et je vous libérerai, maudissez Christ ». Polycarpe répond, « Depuis 86 ans, répondit Polycarpe, je suis son serviteur et il ne m'a jamais trompé. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi, lui qui m'a sauvé ?» Le proconsul, « J'ai des bêtes sauvages. J'ai des bêtes sauvages, dit le proconsul, si tu crains pas les fauves, alors, je te ferai détruire par le feu. Le feu dont vous me menacez, disait Polycarpe, ne brûle que pour un temps et s'éteint vite. Il y a un feu dont vous ne savez rien, le feu du jugement à venir et de la punition éternelle, le feu réservé aux impies. Mais pourquoi hésitez-vous? Faites ce que vous voulez. Le proconsul fut stupéfait et envoya au milieu de l'arène le crieur public pour annoncer par trois fois « Polycarpe a confessé être chrétien. » Alors s'éleva de chaque gorge un grand cri réclamant que Polycarpe soit brûlé vif. Le reste se passa en moins de temps qu'il ne faut pour le décrire. La foule se rassembla pour ramasser des bûches et des fagots trouvés dans les ateliers et les bains publics. Lorsque le bûcher fut prêt, Polycarpe pria. Lorsqu'il termina sa prière par un « Amen », les préposés allumèrent le feu et une grande flamme jaillit. Et ça, c'est tout répertorié par Eusèbe l'historien. Les chrétiens de cette église-là, l'église de Smyrne, ont été attristés parce qu'ils ont perdu leur pasteur. Mais pour le christianisme, c'était une victoire parce que les non-croyants qui ont vu ça, la majorité étaient ahuris, ils étaient frustrés de ce qu'on ait fait ça à des gens innocents comme Polycarpe, un homme de 86 ans. Et donc, en Asie, ça a été une victoire contre la persécution des chrétiens. On a arrêté de traiter les chrétiens de cette manière-là. Je reviens dans le temps, je suis un petit peu au premier siècle, à la fin du premier, début du deuxième. Un autre, il s'appelle Quadratus. Lui était un disciple des apôtres, je ne sais pas lequel des apôtres, il était évêque d'Athènes en Grèce, et c'est le premier qu'on a nommé un apologète. Hein? Un apologète, c'est un défenseur de la foi. Et un jour, il s'est présenté devant Adrien en l'an 125, et Eusèbe répertorie sa confession de foi devant Adrien en disant « Les œuvres de notre Sauveur, parce qu'elles étaient vraies, ont été longtemps présentes. » Donc ça, c'était Quadratus. Ça, en passant à l'examen, ça ne vous sera pas demandé. OK? Le nom du gars qui s'est présenté devant Adrien. OK? Pas besoin de savoir son nom, mais quand même, de savoir son message, ça pourrait peut-être vous être posé comme question à l'examen. OK? Et il a dit ceci, « Les œuvres de notre Sauveur, parce qu'elles étaient vraies, ont été longtemps présentes. Ceux qu'il a guéris et qu'il a ressuscité des morts n'ont pas été vus seulement au moment où ils ont été délivrés de leurs maux ou rappelés à la vie. Ils ont continué à exister pendant la vie du Christ et ont survécu à sa mort pendant d'assez longues années, si bien que quelques-unes sont même venues jusqu'à nos jours. » Eusèbe, livre 4, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Devant lui, c'est un défenseur de la foi devant un empereur romain. Hein? Donc, il défend que Christ a vraiment existé, que les miracles ont vraiment eu lieu, puis les miracles durent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Premièrement, il veut dire que la réalité des miracles peut être vérifiée par des personnes qui étaient concernées de maux ou qui ont été ressuscitées. Deux, certains ont été guéris, d'autres ont été ressuscités d'entre les morts. Et au moment des miracles, il y avait des témoins pour voir ces miracles-là. Et nombreux sont ceux qui les avaient vus et qui avaient été ressuscités. Il y en avait encore quelques-uns vivants au moment où ils se présentaient devant Adrien. Fait qu'en 125, il parle devant Adrien et il dit, il y en a encore qui ont survécu jusqu'à nos jours. Ma tante Georgette a été ressuscitée. Mon oncle Jean-Claude, qui avait une maladie incurable, il a été redressé par notre Seigneur. Et il est vivant encore pour nous le dire. Donc, c'est puissant, ça. C'est en 125, c'est des gens qui avaient déjà, ils ont survécu à la mort de Christ, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus jusque-là. Donc, c'est des bons témoignages. Justin Martyr, qui a vécu de 100 à 167, c'est un des plus grands apologètes chrétiens, défenseur de la foi chrétien. Il est mort après avoir été flagellé et décapité en l'an 167. Il a été sauvé en 132 et il est devenu professeur de philosophie et professeur du christianisme dans une université ou dans une école qu'il avait lui-même chez lui à Rome. C'est un gars qui voyageait pas mal au travers de l'Empire romain et il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Il a écrit beaucoup et il voulait établir que Jésus-Christ était Dieu. On peut le voir. Et que Jésus-Christ a été vraiment un personnage historique. Il y a un village dans le pays des Juifs à 35 stades de Jérusalem où naquit Jésus-Christ, comme vous pouvez en avoir la certitude, d'après les registres d'impôts tenus sous Cyrénius, premier procurateur de la Judée. Alors que lui est en train d'écrire ça, il dit, si vous voulez, allez-y. 35 stades de Jérusalem, il y a des registres qui montrent qu'il y a un petit bonhomme qui s'appelle Jésus, qui est né à Bethléem, à 35 stades de Jérusalem. Au moment où ce que lui est en train de dire ça, il y a des registres pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Parce que nous, on n'a pas nécessairement accès à ces informations-là. Lui, dans ce temps-là, semblait être pas, ça ne devrait pas être un problème du tout. Il parle des registres d'impôts qui sont tenus sous Cyrénius. Intéressant. Un autre. Au moment de sa naissance, les mages qui venaient d'Arabie l'adorèrent, s'adressant d'abord à Hérode, qui était à ce moment-là souverain de votre pays. Prochain. Quand ils le crucifièrent, en lui enfonçant des clous, ils lui percèrent les mains et les pieds, et ceux qui le crucifièrent se partagèrent ses vêtements, tirant au sort pour choisir ce qu'ils auraient et recevant selon le choix du sort. Prochain. Christ dit parmi vous, c'est-à-dire les Juifs, qu'il donnerait le signe de Jonas, vous exhortant à vous repentir de vos mauvaises actions après sa résurrection d'entre les morts. Et pourtant, non seulement vous ne vous êtes pas repentis, mais comme je l'ai déjà dit, vous avez envoyé dans tout le monde des hommes choisis et consacrés pour proclamer qu'une hérésie impie et illégale avait vu le jour, c'est-à-dire la résurrection, avec un certain Jésus, un séducteur galiléen que nous avons crucifié, mais les disciples enlevèrent de nuit son corps du tombeau où il reposait, et maintenant ils trompent les hommes en affirmant qu'il est ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel. Donc, on a des auteurs comme ça, du 1er siècle, qui écrivent aux Juifs en disant, regardez, il vous a dit qu'il vous donnerait le signe de Jonas, c'est-à-dire qu'il était dans le ventre d'un poisson trois jours, puis le troisième jour, il en était sorti. Lui, Jésus, était dans le sein de la terre, puis a été ressuscité dans la troisième journée. Vous ne vous êtes pas repenti, vous avez raconté des histoires à son sujet. Vous avez dit, que dans le fond, que Jésus, c'est une histoire ramanchée, tout ça. Okay? Et donc, il y a déjà là, au 1er siècle, cette idée de lutter contre la fable, que Jésus est une fable. Hein? Et donc, on voit ça déjà dans les écrits de Justin Martyr. Égésip, c'est des noms qu'on n'appellera pas notre enfant de même. Tu sais. Viens, je vais t'appeler Égésip. Okay. Philémon de te coucher. OK, bon. Égésip, tu peux le faire apparaître. Égésip, pas tout de suite ça. On va juste reculer d'une shot. Yes. Jérôme dit qu'il a vécu aussi au temps des apôtres. Donc, ce qui est intéressant ceux que je vous cite aujourd'hui, c'est comme les petits-enfants ou les premiers disciples ou les deuxièmes disciples des apôtres, que ce soit Jean, Paul, Pierre et les autres. Jérôme dit qu'il a vécu au temps des apôtres, qu'il aurait écrit 5 livres qui s'appellent « Les mémoires » et il y a quelques fragments qui ont été trouvés dans les œuvres d'Eusèbe, l'historien que je vous parlais tout à l'heure. Ce gars-là, Égésip, s'est promené beaucoup dans l'Empire romain, dans son temps, pour aller voir si les apôtres avaient enseigné, ceux qui avaient été enseignés sous les apôtres, puis s'il y en avait d'autres, là. Hein. Donc, lui, ce qu'il voulait voir, c'est ça se dilue-tu avec le temps? Est-ce que c'est toujours la bonne doctrine qui est enseignée dans les églises? Et donc, il a voyagé beaucoup pour vérifier l'histoire de Jésus, hein? Il a été touché par les apôtres, mais peut-être pas par Christ. Il n'a peut-être pas vu Christ, il a peut-être juste été à la fin du ministère des apôtres, puis il a vu des ministères se succéder. Et il voulait s'assurer que l'histoire s'était bien passée des successeurs, des apôtres à leurs successeurs. Et il dit ceci. Prochain clic. L'Église de Corinthe persévéra dans la véritable doctrine jusqu'à ce que Primus devint évêque. Je me suis mêlé à eux pendant mon voyage vers Rome et j'ai passé plusieurs jours avec les Corinthiens pendant lesquels nous avons été rafraîchis par la véritable doctrine. En arrivant à Rome, j'ai reconstitué la succession jusqu'à Anicetus, et là, il nomme plein de noms de gens qui ont succédé comme anciens de l'Église de Corinthe. Dans chaque lignée d'évêques, qui sont le pasteur enseignant de l'Église, dans le fond, c'est pas l'évêque comme l'Église de Rome nous le présente aujourd'hui. L'évêque, dans le Nouveau Testament, c'est le pasteur principal de chaque église. Et dans chaque lignée de pasteur principal, et dans toutes les villes, les choses concordent avec la prédication de la loi, les prophètes et du Seigneur. Donc, lui, il est allé analyser, il a vu un peu, il a passé du temps avec les Corinthiens durant son voyage. Il a écouté, puis il dit, c'était la bonne et saine doctrine, telle qu'on l'avait reçue au départ. Alors, aujourd'hui, l'argument qui est important, puis c'est ça, ça va peut-être vous être posé à l'examen. Okay? Ça, c'est peut-être, quand je vous dis l'examen, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va vous demander, dis-moi donc, toi, que la résurrection puis la venue de Jésus, c'est pas juste une fable, que c'est vraiment une histoire. L'argument est le suivant, et c'est inspiré, on a d'autres sources? OK, juste avant de regarder les autres sources, ouais, non, on va les regarder les autres sources. Il y a d'autres sources aussi qui ont été écrites, je vous les cite, pour votre intérêt, mais pas nécessairement pour l'examen. Vas-y. L'empereur Trajan a écrit à Pline le Jeune ne punit pas les chrétiens et ne les punit pas à rétracter leurs croyances. Donc, ils n'ont pas à être punis de faire un aveu à César ou à un empereur, tout ça, et à renier leurs croyances, puis n'acceptent aucun témoignage anonyme contre eux. Et souvent, dans le temps de sous Néron, je vous dis, tu n'aimais pas la face de quelqu'un, puis c'était un chrétien, tu faisais juste faire une déclaration anonyme qui était un chrétien, puis lui, il se faisait amener en cour, puis des fois, c'était pour n'importe quoi, puis à la fin, il n'y avait, avait pas de matière à un débat, mais il posait la question à la fin du tribunal, « Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? » Et s'il disait oui, ben il était coupable, puis il était réservé pour brûler dans le jardin, comme une chandelle, dans le jardin de Néron, pour le vendredi suivant. Okay? Donc, lui, l'empereur Trajan, écrit, dit, « Ne reçoit aucun témoignage anonyme pour faire condamner un chrétien. » Ensuite, ça ici, c'est Pascal, le physicien mathématicien Pascal, qui a cité Macrobius de son livre Saturnalia 2.4, que César avait attesté le massacre des enfants à Bethléem. Tu sais, à Bethléem, on ne parle pas de 200 enfants. Là. C'est un petit village, il y aurait peut-être eu à peu près une vingtaine d'enfants. Là. Fait que c'est pas un événement médiatique énorme. Là, parce qu'il y a des accusations qui viennent contre le christianisme en disant « mais c'est même pas vrai qu'il y a eu un massacre ». Aucunement dans l'histoire, on en parle. Mais c'est ça, il y avait à peu près une vingtaine d'enfants. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui était très... surtout si tu pouvais te lever le matin puis prendre ton enfant puis le jeter dans le dépotoir. Là, je veux dire, c'était pas ça qui courait les rues dans l'Empire romain, là, qu'il y ait des enfants qui ont été massacrés. Là. On continue. Mais c'est intéressant que Pascal dit que Macrobius en avait fait référence en parlant de César. Adrien, qui est cité par Justin Martyr, explique que les accusations portées, c'était quoi les accusations qui étaient portées des païens contre les chrétiens? Okay, ensuite, Anthony le Pieux, il est cité par Justin Martyr. Lui a écrit une lettre à l'Assemblée générale d'Asie Mineure, puis l'essence de son message, c'est « Les fonctionnaires se préoccupent trop des chrétiens » et Antonin explique qu'il ne traitera pas les chrétiens différemment. Donc, en Asie, il fait une lettre à l'Assemblée générale du gouvernement d'Asie, puis il dit, gars, on ne va pas traiter les chrétiens différemment que les autres personnes. Okay? Et donc, c'est intéressant. Marc Aurèle, qui était empereur aussi, c'est quelqu'un qui a ajouté au manuscrit de Justin Martyr, par un de ses disciples, dans le fond, que les chrétiens se dévouaient au service de l'armée romaine. Donc, Justin Martyr, on se rappelle, c'était un des défenseurs de la foi chrétienne. Il s'est présenté devant l'empereur pour essayer de dire, « Hey, tu sais quoi? » Même ses disciples ont continué, ils ont ajouté à son manuscrit de dire, « Hey, dans ton armée romaine, là, il y a plein de chrétiens. Tu ne vas pas détruire ceux qui constituent ta propre armée. » Ensuite, Eusèbe a cité l'œuvre d'Hiéroclès. Et ce dernier traite Paul et Pierre de sorciers. Mais c'est pas grave, parlez-en bien, parlez-en mal, mais au moins parlez-en. Et donc, ça montre que ces apôtres-là ont bien été des enseignants ou des personnes influentes là, du premier siècle. OK, ça c'est l'argument. L'argument est le suivant. Une personne ne meurt pas pour défendre quelque chose qu'elle croit être fausse. Même un kamikaze, il croit que c'est vrai, là, ce pourquoi il meurt. Premier argument. Une personne ne meurt pas pour défendre quelque chose qu'elle croit fausse. Deuxièmement, les premiers chrétiens sont morts pour avoir dit ou cru que Jésus a existé, qu'il a fait des miracles, qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate, qu'il est ressuscité et leur est apparu après sa résurrection. Si un est vrai, et que deux est vrai, alors le troisième énoncé est vrai. Les premiers chrétiens sont morts pour défendre des événements qu'ils croyaient être historiquement vrais. Et ça, c'est fort. C'est vraiment puissant comme argument. Et ça peut vous être posé à l'examen. OK? Donc, juste d'être capable de... Tu n'es pas obligé de dire « Justin Martyr a dit ça » ou « un autre a dit ça ». Ce qui est important... c'est de savoir ici, en résumé, qu'il y a des gens qui étaient prêts à mourir pour défendre que Jésus a existé, puis quand ils s'en allaient à leur tourment, ils écrivaient des lettres, puis dans les choses qu'ils écrivaient, c'est Jésus a vraiment mangé. Jésus a vraiment bu. Jésus a vraiment été crucifié sous Ponce Pilate. Tu n'es pas obligé de te rappeler c'est qui, que c'est Ignace qui l'a dit. Mais d'être capable de le dire en tes mots, il y a des gens qui s'en allaient au bûcher, puis la dernière affaire, toi, si tu t'en irais au bûcher, tu écrirais quoi? Tu écrirais quelque chose que tu crois comme vraiment important. Hein? Mais ils ont écrit des choses comme ça, qui a existé, qui est mort, qui est ressuscité, qui est apparu après sa résurrection. Hein? Ces gens-là, ils allaient jusqu'au bûcher, ils allaient quand même, ils ne renonçaient pas à ça. Pourquoi? Mais parce que les premiers chrétiens, ils étaient prêts à mourir pour défendre les événements qu'ils croyaient être vrais. Puis la seule réponse possible qui résout ça, c'est que c'est vraiment arrivé. Ou qu'ils étaient convaincus que c'était vraiment arrivé. Alors, donc dans mon message aujourd'hui, on a établi que Jésus-Christ est vraiment venu. On l'a établi avec les ennemis de Jésus le 11 décembre, les ennemis de Jésus, ceux qui n'en avaient rien à faire de Jésus. La semaine passée, comme je vous disais au début de mon message, on a vu que Jésus est venu changer complètement l'histoire. Il y a un avant Jésus puis un après Jésus au niveau des femmes, des enfants, de l'esclavage puis de l'éducation. Et aujourd'hui, on a vu que les disciples des apôtres confirmaient, ils étaient même prêts à mourir pour ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Et puis, il référait à Jésus comme une personne vraiment historique. On va terminer avec ça. Donc, on est dans le temps de Noël, présentement, prochain acétate. Puis, je me demandais s'il y avait un verset qui disait vraiment que Jésus était né pour mourir. Puis, tu sais, souvent, à Noël, on parle de l'enfant Dieu qui est dans la crèche. Puis, on voit la myrrhe. Tu sais, la myrrhe qui est un encens pour les morts, dans le fond, hein. Puis là, on se dit, ah, regarde, c'est prophétique, il a reçu de la myrrhe, tu sais. Donc, ça symbolisait qu'il était, c'est un geste prophétique qui disait qu'il était pour mourir. Mais cette nuit, je pensais à ce verset-là, puis je l'ai cherché, puis je trouvais que ça allait bien avec notre message, puis aussi que ça montre vraiment que Jésus est né pour mourir. On lit ça dans Hébreux 10, au verset 4 à 10. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, ça c'est un beau verset qui nous montre que Jésus était Dieu préexistant. Hein? Jésus, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre qu'il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, Jésus dit, Dieu dit, je ne veux pas d'offrande pour le péché. Je ne veux pas d'offrande pour le péché du peuple. Alors, Jésus dit, OK, bien, fais-moi un corps. Tu me fais un corps et je ne vais pas t'offrir un sacrifice. Je vais être le sacrifice. Littéralement, le texte ici vient de nous dire qu'il abolit les sacrifices de l'Ancien Testament. Et il va les abolir en devenant le sacrifice, non en offrant un sacrifice, mais en devenant le sacrifice. Il dit, tu m'as formé un corps pour que je fasse un. Et c'est important, faire toute la volonté du Seigneur. Jésus, c'est sa mort à la croix qui nous sauve, mais c'est sa vie sans péché aussi qui nous sauve. Et il fallait que le sacrifice soit sans péché. Et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ était sans péché. Hein? Il est né. Et c'est là qu'on peut arriver avec nos amis puis partager que le seul moyen qu'une personne puisse mourir pour un coupable, c'était si lui n'avait jamais rien fait. Mais qui dans le monde qui n'a pas péché? Et là, tu peux t'amuser avec ça. Puis là, tu vas arriver à la naissance virginielle sans te faire rire de toi. Parce que si tu dis « il est né de la Vierge », puis laisse-moi t'expliquer pourquoi. « Il est né d'une Vierge ». Par contre, si tu commences à l'inverse, puis tu dis « pourquoi, c'est quoi le sacrifice que ça prenait? » Ça prenait un sacrifice, pas de tâche, pas de défaut. Donc, un animal là, qui mourait pour des innocents, pour des coupables, je m'excuse. Un innocent pour des coupables, mais quelqu'un sans péché. Qui est sans péché ici? Fait que là, la personne, elle se gratte la tête et elle dit, ben, Ben, des fois, tu peux dire en joie, ah, mais il y en avait un, mais on l'a crucifié. Tu sais? Ça, ça détend un petit peu quand même. Puis là, tu dis, ben, il y en a un, mais il ne pouvait pas mourir. Le seul qui pouvait être sans péché, c'était Dieu, puis il ne pouvait pas mourir. Donc, il a fallu qu'il se fasse un corps. Donc, il s'est incarné pour pouvoir être le celui qui mourrait à notre place. Et là, ça nous ouvre. Tu es en train de parler de la naissance virginale, puis tu dis, ben, il a été conçu de la part du Saint-Esprit. Son corps a été formé par le Saint-Esprit. Mais ici, dans le verset, ce que je veux amener avec vous, c'est que regarde ici, pour faire ta volonté. Donc, Jésus ne vient pas seulement mourir, il vient vivre la vie parfaite que le Père attendait. Hein? Et il vient la faire pour nous, mais c'est vraiment sa crucifixion qui vient nous racheter. Hein? C'est l'offrande du corps de Christ. Ah, ici, au verset, il dit que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever le péché. Mais le sang de Christ, lui, vient enlever les péchés du monde. Moi, je trouve que c'est un beau verset à propos du corps de Jésus. Vous trouvez-vous? Moi, ça clôturerait mon message aujourd'hui. On va finir par un mot de prière parce que peut-être que sur enregistrement, nos amis ils nous écoutent, puis peut-être nos familles ou des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour eux. À Noël, ce qu'on fête, c'est la venue de Dieu fait chair. La seule façon qu'une personne peut être sauvée, c'est si quelqu'un sans péché mourrait à la place d'un coupable. Il n'y a personne parmi les hommes qui peut mourir. Ah, peut-être qu'il pourrait avoir un ange qui mourrait, mais parmi les hommes, il n'y en a pas un qui peut payer pour les autres. Donc, il faut que ce soit un homme, puis il faut qu'il soit sans péché. Pas un ange, un homme. Et Jésus n'est pas un ange. Jésus est le Créateur du monde, la Bible nous dit. Et il s'est fait chair. Il était enfanté par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et il y a eu un corps, il a été créé. Et il est venu pour enlever le péché du monde. Et donc, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il est venu abolir les sacrifices de l'Ancien Testament. Puis il est devenu le sacrifice pour toi. C'est important que Jésus soit une personne de l'histoire et non un personnage d'une histoire. Parce que s'il est juste un personnage d'une histoire, il n'y a personne qui est mort pour toi. Il n'y a personne qui est venu vivre une vie parfaite à ta place. Il n'y a personne qui est venu te sauver et tu vas mourir sans Dieu. Mais si Jésus est la personne de l'histoire, que c'est Dieu qui est rentré dans l'histoire des hommes, qui a vécu la vie qu'il devait vivre, qui est mort d'une mort que tu devais mourir, eh bien, ça veut dire que si ces choses-là ce sont des faits historiques, ça veut dire aussi que tu peux avoir la vie éternelle et ça va être compté comme un fait historique et tu vas avoir la vie éternelle. Puis quand tu vas mourir dans l'histoire, tu vas aller au ciel avec Dieu. Ce n'est pas juste un conte historique. C'est le fondement de l'histoire de l'humanité. C'est la solution de l'histoire de l'humanité. Jésus est la solution pour le péché dans le monde. Il est la solution pour la vie éternelle. Il est la solution pour le sens de la vie. Jésus, ce n'est pas juste une histoire. Alors que tu nous écoutes ce matin, peut-être que tu l'avais réduit aux histoires de Krishna, Bouddha, puis toutes les autres. T'sais. Mais non. Jésus, c'est vraiment Dieu qui est rentré dans l'histoire pour toi. Et tu peux, si tu veux, recevoir la vie éternelle en l'acceptant comme ton sauveur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire qui il est et ce qu'il a fait. Et l'accepter pour toi. Qui il est? Il est le Dieu qui a été fait homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu une vie parfaite pour toi et il est mort pour payer ta dette. Beaucoup ont témoigné de sa venue, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection. Et tu as de bonnes raisons de croire que c'est arrivé. Et tu peux placer ta confiance en lui. Si tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu crois aussi qu'il va te préparer une place qui te prépare au ciel pour toi. Puis un jour, tu vas aller le rencontrer parce qu'il t'a sauvé. Si tu crois cela, on va le dire simplement en tes mots. Un, reconnaître qui il est, ce qu'il a fait et lui demander de te sauver. On va faire cette prière-là. L'Église va la faire comme elle l'a fait à l'habitude. Non pas qu'on accepte Jésus plusieurs fois, on l'accepte une seule fois. Mais par courtoisie, on le fait aussi avec ceux qui nous visitent, ceux qui nous écoutent sur enregistrement aussi. répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que tu acceptes la mort d'un innocent pour un coupable. Que l'innocent doit être sans péché. Il n'y en a pas parmi les hommes. Je crois que tu es devenu homme pour payer à ma place et me sauver. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me préparer une place. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur, si quelqu'un a fait cette prière-là pour la première fois, si avant tu n'étais qu'un personnage dans une histoire, et qu'ils ont accepté de faire un pas de foi et d'accepter que tu es le personnage de l'histoire. Viens changer leur histoire, Seigneur. Viens leur donner une nouvelle vie. Puis viens les préparer, Seigneur, pour ton royaume à venir. Fait qu'ils puissent aller dans une église où ils vont entendre la parole et grandir dans leur foi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.